Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous venons de lire dans l'Épître un petit passage de la lettre de Saint-Pierre, la première lettre de Saint-Pierre. C'est la première encyclique de l'Église, de l'histoire de l'Église. Et le passage que la liturgie a retenu pour aujourd'hui est un passage dans lequel Saint-Pierre, après avoir défini ce qu'est un chrétien, souligner sa grandeur, c'était les mots qui précédaient ce que nous avons dans l'épître d'aujourd'hui. Saint-Pierre fait une exhortation très pratique. On pourrait l'intituler ainsi « Comment vivre chrétiennement selon sa vocation dans un monde qui n'est pas chrétien ?» Vous voyez que c'est un problème qui est très actuel. Alors voici ce que dit Saint-Pierre. « Très cher, je vous exhorte comme des étrangers et des hôtes de passage, des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On pourrait résumer en disant « Le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. » C'est le principe de départ, le principe fondamental sur lequel Saint-Pierre s'appuie pour nous expliquer tout ce qui suit. La vraie patrie du chrétien, c'est le ciel. Ici-bas, il est un étranger, un hôte de passage. Il ne fait que passer. Or, un passager, un voyageur qui ne fait que passer, justement, eh bien, il n'adopte pas les coutumes et les mœurs du pays qu'il traverse. Alors, citoyen du ciel, le chrétien doit se garder, doit se tenir éloigné de tout ce qui pourrait ternir ou empêcher la sainteté à laquelle il a promis de tendre au jour de son baptême. C'est le même enseignement qu'on trouve dans la première épître de Saint Jean, vous connaissez ce texte, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, car tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie », les trois concupiscences. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et le monde. C'est le fondement même de la vie chrétienne. On ne peut pas servir les convoitises charnelles et puis l'âme, l'âme qui est faite pour Dieu. Il faut choisir. Il faut choisir entre ces deux voies. Il y a un petit texte de l'Antiquité chrétienne qui s'appelle la Didache. C'est un texte très ancien, il est de la fin du 1er siècle. C'est peut-être même le plus ancien texte de la littérature chrétienne. Et dans ce petit texte très court, qui est une espèce de résumé catéchétique pour préparer les âmes au baptême, les catéchumènes, il est dit en tête, c'est le premier chapitre, qu'il y a deux voies qui se présentent à nous. La voie de la vie, la voie de la mort. La voie du péché, puis la voie de la grâce. Et il n'y a pas de troisième voie. Nous, nous aimerions bien parfois qu'il y ait une troisième voie. On pourrait boiter, avoir un pied du côté du bon Dieu, puis un pied dans le monde. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a que deux voies. Alors il faut choisir. Et notre baptême nous oblige à choisir. Alors ayant ainsi posé le principe, Saint-Pierre continue. « Ayez une conduite excellente. » Le latin dit « bona conversatio ». Un bon comportement au milieu des païens. Car telle était la situation des fidèles alors. Saint-Pierre s'adresse aux fidèles d'Asie mineure. La première épître qu'il écrit est une épître écrite à toutes les églises, toutes les grandes chrétientés d'Asie mineure qui étaient les plus belles à l'époque, les plus florissantes. Et cette situation qui était celle des chrétiens d'Asie mineure, des petites communautés, des chrétiens encore peu nombreux, très minoritaires, au milieu d'un monde très païen, eh bien on peut dire que c'est exactement aussi la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a un retour du paganisme. C'est même peut-être pire parce que c'est une apostasie aujourd'hui. Ce paganisme, comment est-ce qu'il se manifeste? Eh bien, c'est l'immoralité généralisée, l'immoralité affichée, provocante, agressive, qu'on voit partout autour de nous, avec ses scandales, ses pratiques contre nature, ses mœurs dégoûtantes. C'était ça le monde païen, et c'est à nouveau cela. L'idolâtrie avec les cultes superstitieux. Sans doute aujourd'hui, tous ces cultes idolâtres sont peut-être moins présents, moins visibles en tout cas. Mais les hommes modernes rendent un culte à l'argent, au confort. Il y a bien d'autres dieux que les hommes modernes servent. Et puis l'égoïsme, le mépris du prochain, la haine, la violence, le mépris de la vie, là encore, ce sont des caractéristiques qui vraiment marquent le monde moderne, le monde dans lequel nous vivons. Alors, que faire ? Comment agir au milieu de ce monde ? Qu'est-ce que Saint-Pierre va dire à ces chrétiens ? Et qu'est-ce que nous, nous devons comprendre ? Que faire ? Comment se comporter ? Alors, nous pourrions dire, faire comme les païens, s'aligner sur le monde. Hélas, c'est un petit peu ce que l'Église officielle aujourd'hui fait. Pour avoir une petite place dans le monde, et on s'aligne. On adopte les coutumes, les idéologies surtout qui sont celles du monde. Vous savez que le 7 avril dernier, Rome a publié un texte intitulé « Dignitas infinita », un texte sur la dignité de l'homme, une dignité infinie, absolue. C'est incroyable. Et cela pour faire écho à l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. L'Église s'aligne sur le monde. Elle fête cette Déclaration des droits de l'homme, qui est une déclaration qui a été faite par la franc-maçonnerie. L'Église s'aligne sur l'idéologie de la franc-maçonnerie. Alors, nous ne pouvons pas choisir cette voie, évidemment. Alors, s'isoler, se renfermer, raser les murs pour ne pas se contaminer, c'est une tentation. Bien des chrétiens, peut-être aujourd'hui, auraient un peu tendance à dire on va se couper de tout. On va se clôturer dans nos maisons, on va surtout ne fréquenter personne, et comme ça, nous pourrons garder jalousement, égoïstement, notre petite foi chrétienne. Ça n'est pas ce que le bon Dieu nous demande. Nous pourrions aussi nous décourager. Tout est perdu, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Attendons la fin du monde. Ce n'est pas du tout ce que Saint-Pierre nous encourage à faire. Saint-Pierre nous dit qu'il faut au contraire réagir, mais réagir en chrétien. Ayez une conduite excellente, une conduite vraiment chrétienne, exemplaire, au milieu des païens. Et voici la raison qu'il donne, afin que sur le point où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, des malfaisants, des nuisibles, des fauteurs de troubles, c'est bien ce qu'on dit des chrétiens, ils en viennent, en y regardant bien, à glorifier Dieu pour vos bonnes œuvres au jour de sa visite. Voilà, Saint-Pierre nous dit, soyez missionnaires. Montrez-vous les fils de lumière que vous êtes. Montrez-vous chrétiens excellents. Donnez l'exemple de la vertu, de la charité, de la pureté, de la piété, sans ostentation, sans provocation, mais réellement. C'est le meilleur moyen de désarmer les critiques, de désarmer justement toutes ces calomnies dont le christianisme est la victime. Un peu plus loin, Saint-Pierre dit dans son épître, c'est le moyen de fermer la bouche aux insensés qui vous méconnaissent, de faire taire les calomnies. Parce que les calomnies, au temps de Saint-Pierre, précisément existaient et elles existent toujours. C'était ça la situation. Les vrais chrétiens dérangent. Alors on les taxait d'incivisme. Sous la Révolution française, on dira fanatique. On les accusait d'insubordination sociale. On leur reprochait leur intransigeance ou leur rigorisme, enfin ce qu'on appelait le rigorisme, qui n'en était pas un. La vie austère des chrétiens était comme une condamnation du libéralisme des païens. Les chrétiens ne se livraient pas aux turpitudes des païens. Alors on les accusait. Et un peu plus tard, on finira même par dire que les chrétiens étaient cannibalistes. Et même incestueux, parce qu'ils se réunissaient dans les catacombes pour des cérémonies. Ces cérémonies étaient plus ou moins cachées. Alors, du coup, on prétextait ces choses-là pour inventer des calomnies monstrueuses. Et même le simple nom de chrétien deviendra un crime passible de mort. On n'en est pas là aujourd'hui. Ça pourrait venir. Alors la consigne de Saint-Pierre est celle-ci, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne cherchez pas à vous opposer à cette violence qui vous est faite par une violence contraire. On ne combat pas la révolution par une révolution contraire. Votre grande force, dit saint Pierre, c'est votre innocence, c'est votre foi. On a lu un texte de ce genre, tiré de saint Jean, il n'y a pas longtemps, dans la liturgie. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Et si saint Pierre encourage les chrétiens à agir de cette manière, c'est pour deux raisons. La première est sous-entendue, il ne la dit pas, mais elle est évidente. C'est parce que c'est Dieu qui mène toutes choses. Dieu conduit même les méchants, il conduit les méchants eux-mêmes à travailler, malgré eux, à la réalisation de son plan providentiel. Et Dieu sera vainqueur, et il l'est déjà. Comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, « Courage, petit troupeau, j'ai vaincu le monde ». Donc nous pouvons, nous devons avoir confiance, quelle que soit la dureté du combat ou la difficulté de la situation. Il n'y a pas de raison de se décourager ou de s'isoler, de se fermer. Et puis l'autre raison, c'est celle que saint Pierre donne explicitement. Il y a dans le monde des âmes de bonne volonté, des âmes qui ne demandent au fond qu'à être éclairées. Alors peut-être ces âmes aujourd'hui sont encore loin, peut-être rejettent-elles même le nom chrétien. Mais Dieu travaille secrètement dans ces âmes. Et pour amener ces âmes à lui, Dieu veut se servir du témoignage des chrétiens fidèles. C'est exactement ce que dit saint Pierre. En voyant la conduite excellente des chrétiens, ces âmes en viendront, en y regardant bien, à glorifier Dieu au jour de sa visite, c'est-à-dire à reconnaître la vérité de la foi catholique quand Dieu se manifestera à eux. Et c'est l'enseignement aussi du sermon sur la montagne. Souvenez-vous, dans saint Matthieu, notre Seigneur dit « Que votre lumière brille devant les hommes, de sorte que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le chrétien est la lumière du monde, le sel de la terre. La lumière, on ne la met pas sous le boisseau. Le sel, il doit donner du goût. Il est là pour justement bonifier les choses. Alors nous devons prendre conscience de tout cela, nous devons prendre conscience de notre responsabilité comme catholiques. Dieu nous demandera compte du bien que nous n'aurons pas fait, des âmes qui n'auront pas été sauvées par notre faute, parce que peut-être égoïstement, nous n'aurons pas rayonné notre vie chrétienne comme il nous le demandait. Et notez que cette spiritualité est enthousiasmante, elle est conquérante, c'est ça la vraie vie chrétienne. C'est une vie de liberté, cette liberté justement dont saint Pierre nous parle, la vraie liberté. Saint Pierre dit « Comportez-vous comme des hommes libres, non pas comme des hommes qui se font de la liberté un vêtement, c'est-à-dire un prétexte pour couvrir leur malice, pour couvrir leur licence, mais au contraire comme des serviteurs de Dieu. La vraie liberté que Dieu nous a donnée est ordonnée au bien. Il n'y a pas de liberté pour le mal. » Parce que Dieu veut qu'on le serve librement, il veut qu'on le serve volontairement, consciemment, de manière méritoire, et non pas comme des animaux qui n'ont pas de raison. Et donc c'est pour cela qu'il nous a donné ce pouvoir de nous autodéterminer. Mais c'est en vue du bien, et uniquement en vue du bien. Dieu ne veut pas que nous utilisions cette capacité pour autre chose que le bien, pour le mal, pour le péché. Alors saint Pierre va tirer de tout cela une conséquence très pratique. Soumettez-vous à toute institution humaine à cause du Seigneur. Cela fait partie de la conduite excellente dont il a parlé plus haut, cette conduite que le chrétien doit exercer pour fermer la bouche aux insensés qui prétendent que les chrétiens sont contre l'ordre établi. Pourquoi saint Pierre demande-t-il cette soumission? On peut donner trois raisons. D'abord parce que l'autorité vient de Dieu. Donc elle est bonne en soi. Même quand elle est défaillante, l'autorité reste voulue de Dieu. Même en cas d'abus de pouvoir, quand le devoir de l'obéissance est suspendu, ça peut arriver, et aujourd'hui ça arrive, même alors le respect de la fonction demeure, le respect de l'autorité. Et justement, c'est ce que notre Seigneur a fait, c'est l'exemple qu'il nous a donné, c'est la deuxième raison. Jésus nous a donné cet exemple. Et en même temps, il nous a commandé de respecter l'autorité. Regardez pendant la Passion, quand notre Seigneur se trouve face à face avec Caïphe, Caïphe qui haïssait notre Seigneur, qui l'a mis à mort. Notre Seigneur a une attitude parfaitement différente. Il dit les choses, il professe la vérité avec une force très grande, Mais notre Seigneur ne se rebelle pas contre l'autorité, cette autorité que Dieu même, lui-même a instituée. Et puis la troisième raison, plus immédiatement, c'est la raison que donne saint Pierre, c'est que cette soumission est le meilleur moyen de museler les calomniateurs de la religion, qui n'attendent qu'un prétexte pour accuser les chrétiens d'insubordination ou de rébellion. Dieu ne veut pas que son nom soit blasphémé à cause de la façon de vivre ou de l'imprudence des chrétiens. Et ça peut arriver. Alors bien sûr, saint Pierre ajoute, à cause du Seigneur, soumettez-vous à toute institution humaine, à cause du Seigneur, la clause est importante. Dieu ne demande pas une soumission aveugle aux décisions arbitraires ou iniques de l'autorité, évidemment. Il y a des cas où il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pour terminer, permettez-moi de vous citer un extrait d'un texte très ancien, un texte de l'Antiquité chrétienne, qui est un écho de cette lettre de saint Pierre, qui dit les choses un petit peu différemment, mais où on retrouve tout à fait la même idée. C'est ce texte qu'on appelle la lettre à Diognète. C'est une lettre qui a été retrouvée assez tardivement, mais qui date de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle. C'est un chrétien qui écrit. Il écrit à un païen qui lui a posé des questions. Vous voyez, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup d'échanges. Les chrétiens cherchaient vraiment à être missionnaires. Et alors ce païen demandait à cet homme qui lui répond, à ce chrétien qui lui répond, donc ce païen qui s'appelait Diognète, demandait deux choses. Pourquoi les chrétiens se séparent-ils des juifs et des païens? Et puis, comment les chrétiens vivent-ils entre eux et dans le monde? Comment peuvent-ils concilier leur vie chrétienne et puis leur vie dans le monde? Alors, voici la réponse. C'est un tout petit extrait. Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autre ville que les vôtres, dit ce chrétien au païen, d'autre langage que celui que vous parlez, rien de singulier dans leurs habitudes. Ils sont comme tout le monde. Seulement, ils ne se livrent pas à l'étude des 20 systèmes. Ils n'adhèrent pas à toutes les idéologies fausses, fruit de la curiosité des hommes. Ils ne s'attachent pas, comme plusieurs, à défendre des doctrines humaines, des doctrines frelatées. Répandus selon qu'il a plu à la Providence dans les villes grecques ou barbares, ils se conforment pour le vêtement, pour la nourriture, pour la manière de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis. Ils ne cherchent pas à se singulariser. Mais ils placent sous les yeux de tous l'étonnant spectacle de leur vie tout angélique et à peine croyable. Ils refusent le péché. Ils habitent leur cité comme étrangers, mais ils prennent part à tout comme citoyens. Ils souffrent tout comme voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie, et toute patrie, ici-bas, est une région étrangère. Leur vraie patrie, c'est le ciel. Mais ils vivent dans le monde. Comme les autres, ils se marient. Comme les autres, ils ont des enfants. Seulement, ils ne les abandonnent pas. Ils ont tous une même table, mais pas le même lit. Ils ne vivent pas de turpitude. Ils vivent dans la chair, mais non pas selon la chair. Ils habitent la terre, mais leur conversation est dans le ciel. Ils sont soumis aux lois établies, mais par leur vie, ils sont supérieurs à ces lois. Ils aiment tous les hommes et tous les hommes les persécutent. Sans les connaître, on les condamne. Vous voyez les calomnies. Mis à mort, ils naissent à la vie. Pauvres, ils font des riches. Manquant de tout, ils surabondent. L'opprobre dont on les couvre devient pour eux une source de gloire. La calomnie qui les déchire dévoile leur innocence. La bouche qui les outrage se voit forcée de les bénir. Les injures appellent ensuite les éloges. Irréprochables, ils sont punis comme criminels et au milieu des tourments, ils sont dans la joie comme des hommes qui vont à la vie. Les Juifs les regardent comme des étrangers et leur font la guerre. Les Grecs les persécutent, mais ces ennemis si acharnés ne pourraient dire la cause de leur haine. Quel beau tableau! Et la lettre continue, je cite juste cette dernière phrase, « Pour tout dire, en un mot, les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. » L'âme, c'est ce qui donne la vie au corps. Il faut que les chrétiens soient dans le monde comme l'âme est dans le corps. Alors, mes frères, demandons à notre Seigneur de bien comprendre cette doctrine et surtout de bien la pratiquer. Nous avons lu dans l'oraison de ce dimanche que tous ceux qui sont comptés comme professant la foi chrétienne, tous ceux qui sont censés professer la foi chrétienne, c'est notre cas, eh bien que cela rejette ce qui est ennemi de ce nom de chrétien et suive ce qui lui est conforme. C'est la grâce qu'il faut demander. Soyons dans le monde de vrais chrétiens. Ne soyons pas du monde, mais devant vivre dans le monde, soyons-y comme de vrais chrétiens pour que ce christianisme rayonne autour de nous et convertisse tous ceux à qui le bon Dieu, que le bon Dieu appelle à la vie éternelle, à sa propre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.